Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, vive France Inter et vive l'instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais ne spoiler. Le
spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles.
Le XXe siècle a commencé en 1895 avec l'invention du cinématographe, à coutume de dire Serge Vialet, l'homme qui déterre les cold cases du XXe siècle et qui les résout en traquant la vérité derrière les images animées. De Pancho Villa à la libération des camps de concentration, de Pearl Harbor à l'assassinat du roi de Yougoslavie, de la traversée de l'Atlantique par Lindbergh au voyage du pape Jean-Paul II en Pologne, Serge Vialet traque les archives partout dans le monde et les passe littéralement à la loupe pour les faire parler au-delà de ce qu'elles montrent. Car une image n'est pas le réel, elle est le fruit d'un progrès technique et d'une intention humaine, pour ne pas dire politique. On ne refait pas l'histoire en images sans faire, ou plutôt défaire, l'histoire des images.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
J'ai pris l'Assemblée de m'excuser, je ne m'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊቴ ላይ የጋዝ ላክሬሞጄን ያለበት ቦምብ ጣሉባቸው።
1936, c'est totalement bouleversant. L'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, s'exprime face à la Société des Nations. L'aviation italienne vient de bombarder son pays. Bonjour Serge Vialet, soyez le bienvenu.
Merci à vous, merci pour votre accueil.
Ah bah oui, non, mais
je suis ravie d'être accueillie chez vous.
Tellement, tellement heureuse.
Je vous écoute tous les matins en chemin pour l'INA, où nous avons notre atelier, où oui. Je vais rejoindre tout à l'heure toute l'équipe de Mystère d'Archives. Donc tous les jours, je vous écoute et pour la première fois.
Vous êtes des nôtres.
Je sais où vous êtes.
Serge Vialet, vous êtes des nôtres avec vos mystères d'archives. Deux épisodes de mystères d'archives diffusés chaque dimanche sur Arte à 13h25. Il y en a 55 en tout. Vous retournez à l'atelier, il y en aura 60 au total. Ce sera la collection. Elle est traduite dans 9 langues. Elle est diffusée dans 70 pays. Cher Serge, vous êtes venu accompagner. J'espère que vous nous regardez en vidéo parce que... Mais c'est qui ce type à côté de vous? Ce type en noir et blanc à côté de vous.
Alors, je me suis autorisé à venir avec la mascotte de la collection.
Oui.
Cette mascotte, c'est une photographie de 1895. Mm-hmm. Elle représente Charles Moisson qui est le premier à avoir construit une caméra pour les Frères Lumière.
Oui.
Ça s'appelait un cinématographe.
Mm-hmm.
C'est le premier à avoir tourné un premier grand reportage, n'est-ce pas, dans l'histoire, c'est-à-dire en 1897, en filmant le président de la République française, Félix Faure, en voyage dans l'ouest de la France.
Ça, c'est passionnant.
Et toutes ces images sont intégralement gardées, conservées et peuvent être étudiées.
Serge Vialet, parce que ça signifie que le premier reportage de l'histoire des images est un reportage politique qui inaugure un genre à part entière, qui est le voyage présidentiel, ou finalement un tour médiatique.
Le politique s'empare très très vite de ce nouvel outil.
Ouais.
Le politique comprend très vite l'intérêt d'être vu. Mais le politique au sens très large, parce que le pape, Léon XIII, 1898, mm-hmm. se fait filmer et montrer aux États-Unis. Les images du pape bénissant la foule passent auprès du public américain, catholique, qui se met à genoux dans les salles de cinéma.
C'est extraordinaire. La toute-puissance de l'image ou l'image de la toute-puissance. C'est par là qu'on va commencer avec vous, Serge Vialet, parce que vous le dites et vous le répétez sans cesse, une image n'est jamais gratuite, elle n'est jamais objective, elle n'est jamais innocente, elle n'est jamais anodine. Donc il y a les images politiques et il y a la politique de l'image. Le premier mystère d'archives que vous allez diffuser dimanche, juin 1944, le débarquement allié sur les côtes normandes. On connaît par cœur. Et pourtant, le D-Day n'est pas qu'une opération militaire. C'est aussi une super production confiée à un géant d'Hollywood. Extrait.
En 1944, il est pratiquement impossible d'enregistrer des sons pendant les combats. Mais cela fait des années
que l'on sonorise les images pour que ce soit plus impressionnant. C'est le cinéaste John Ford qui aurait proposé d'installer des centaines de caméras sur des péniches et des blindés. John Ford suit les opérations depuis un navire au large de Omaha.
Qu'est-ce qu'il reste de ces centaines de caméras?
Alors, deux choses. John Ford aimera d'abord raconter des histoires.
Oui.
Donc il n'est pas certain qu'il y en ait eu 500 comme il le dit. Il y en a eu certainement beaucoup, mais le matériel a été forcément abîmé, cassé, brisé au moment du débarquement. Des caméras n'ont pas été lancées, des caméras ont été oubliées, des caméras ont été noyées. Nous avons retrouvé l'intégrale du tournage de trois caméras qui prouvent qu'il avait raison. Et la source d'inspiration, probablement de John Ford, ce que nous racontons pas dans le mystère d'archives, je vais me permettre de vous la donner.
Allez-y.
Il s'avère que depuis quelques années, quelques 15 000 avions sont équipés de caméras américaines. Imaginez, 15 000 caméras sont dans des avions de chasse. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, au moment où le pilote tire, est en combat, d'enregistrer des images pour, au retour, s'il a la chance de survivre à ce combat, pour débriefer, pour comprendre ce qu'il s'est passé, parce qu'il ne l'a pas bien vu, bien sûr. Donc, 15 000 avions sont équipés de 15 000 caméras.
Pendant
et cela a certainement inspiré John Ford qui s'est dit « Et si nous faisions cela pour avoir des images de grande qualité et impressionnantes au moment du débarquement à la demande du général en chef des armées Eisenhower ?»
Alors des images de grande qualité et des images impressionnantes. Vous avez consacré il y a un petit peu plus longtemps un mystère d'archives à l'immense fête ultra spectaculaire qu'a donné le Shah d'Iran en 1971. C'était avant la révolution islamique bien entendu. Des reconstitutions historiques retransmises dans 30 pays, 1 milliard de téléspectateurs en 1971. Et le Quai d'Orsay note la qualité, la grande qualité des images SECAM.
Reprenez votre question, s'il vous plaît. Petit retour en arrière.
Voilà qu'on retrouve
Réécoutons cette question.
Oui.
J'aimerais que vous me la répétiez,
oui,
simplement pour que vos auditeurs,
oui,
l'entendent un peu mieux. Je me permets de faire avec vous,
oui,
directement du mystère d'archives. Et vous allez voir, et ils vont entendre,
oui,
à quel point c'est riche que de pouvoir réécouter parfois une question comme on peut revoir une image.
C'est exactement ce que vous faites d'ailleurs, Serge Vialet. C'est-à-dire que vous repassez au ralenti ces images, oui, ces séquences que vous récupérez, que vous collectez dans, oui, le monde entier. Il faut d'abord qu'elles soient nettoyées, il faut qu'elles soient propres,
oui, hein,
parce que parfois les images sont très abîmées.
C'est-à-dire qu'il faut les montrer telles qu'elles ont été vues.
Oui.
N'est-ce pas? Parce que nous, c'est une image abîmée, ce n'est pas l'image qui a été montrée.
Absolument.
Ce qui est très important toujours, c'est d'essayer de retrouver l'émotion éprouvée par les spectateurs, je ne dis pas les téléspectateurs, parce qu'avant ça c'était dans les salles de cinéma, telles qu'ils ont découvert les images. Donc une image altérée, rayée, avec des taches, etc. C'est pas du tout ce qu'ils ont vu. Et donc revenons le plus possible vers ce qui leur a été montré. Retirons tous les sons qui ont été ajoutés ultérieurement pour essayer, soi-disant, de les embellir.
Oui.
Retrouvons la sensation éprouvée et le choc donné par les images quand elles ont été diffusées pour la première fois.
Alors, toute puissance de l'image et image de la toute puissance, je continue à tirer le fil de,
merci,
vos mystères d'archives. Évidemment, nombre d'épisodes sont consacrés aux images de propagande, aux images totalitaires, à commencer par les archives nazies, par exemple. Premiers Jeux olympiques retransmis à la télévision, 1936, Berlin. Vous allez nous parler, justement, de ce qui relève de la volonté politique, mais ce qui relève aussi du progrès technique.
Autre caméra utilisée pour la télévision. Installée sur le toit d'un camion, elle prend des images en film. C'est dans la partie ronde, au-dessus, que l'on met la bobine. Le film passe devant l'objectif, puis descend à l'intérieur du camion, où il est immédiatement développé et transformé en signaux électroniques qui vont être envoyés par les ondes. De l'enregistrement des images à leur transmission, il faut compter à peine 2 minutes.
Hermann im Kampf um den Ball. Gibt ab an Ortmann. Schuss! Tor!
Donc, ce sont les débuts de, n'est-ce pas, de la télévision que là, oui. vous me... Et maintenant, je vais vous raconter une autre histoire, si vous me le permettez. Tout à l'heure, je retourne dans le grand atelier que nous avons à l'INA, n'est-ce pas, pour Mission Archive. Et nous allons continuer à travailler sur le premier débat politique filmé par une télévision, le premier la naissance du
qui
débat
a eu lieu
politique
où et quand Serge Vialet
hallucinant en 1959 à Moscou,
oui,
entre Richard Nixon, vice-président des États-Unis, et Nikita Khrouchtchev. Le hasard fait qu'il y a une pas le hasard. Il y a une... je vous la fais
jamais
très
de hasard
a...
avec
je
vos
fais...
images.
Je vous la fais
jamais.
Simple.
Oui.
Il y a une exposition américaine à Moscou en 59 pour essayer de calmer le jeu politique, n'est-ce pas? Parce que là, les tensions sont telles qu'il faut trouver le moyen de parler les deux camps, d'apaiser les relations. Mm-hmm. Au cours de l'exposition, qui est destinée à montrer la vie américaine dans tous ses aspects, ça va de l'aspirateur à toute la vie américaine. Eh bien, il est montré les premières caméras couleur américaines d'Ampex, n'est-ce pas, qui sont aussi en mesure d'enregistrer les images, de garder, de conserver sur bande vidéo les images. Richard Nixon et Khrouchtchev passent devant. Et les techniciens se disent, c'est formidable s'il reste 10 secondes. Simplement, on aura quelques images d'eux. Et s'il vous plaît, messieurs, dites quelque chose. Attention, non. Il reste 18 minutes.
Oui.
Et il se lance dans un débat, dans une joute verbale, très musclée, dont nous avons l'intégrale. Et là où ça devient extraordinaire, c'est que, bien sûr, ils ne s'attendaient pas à avoir ce débat. Et après, ils disent, attendez là, vous gardez les images, on va voir ce qu'on en fait. Non, les images repartent immédiatement aux États-Unis et immédiatement, les trois networks américains, les trois grandes chaînes privées américaines vont les diffuser sans autorisation. C'est un bras de fer qui est engagé et c'est le début du débat politique à la télévision en juillet 1959.
Totalement passionnant et j'aimerais que nos auditeurs comprennent votre passion et votre intérêt pour la caméra elle-même et pas seulement ce qu'elle filme. C'est-à-dire que vous vous intéressez autant au support technique, à son évolution. Vous avez un long compagnonnage avec les caméras, Serge Vialet. Vous avez vous-même tourné pendant 20 ans des images un peu partout autour de la planète.
Et j'ai un ancêtre qui est ici présent,
Jean Masson,
n'est-ce pas ?
Oui,
mais attention, c'est l'ancêtre de tout. C'est notre ancêtre à tous ceux qui filment. Il faut comprendre ce qui s'est passé avant nous.
Oui.
Et on ne peut pas comprendre des images qui ont été diffusées si on ne comprend pas les outils qui ont permis de les enregistrer.
Et les pellicules.
Et les objectifs.
Et les micros.
Exactement. Et on ne comprend pas. C'est impossible d'arriver à saisir comprendre comment on communiquait avec ces outils. Au début, Charles Moisson, il a une bobine de 50 secondes. Les films font 50 secondes au début. C'est tout. Et c'est déjà très bien.
Il y a quelque chose que vous avez... Alors, toutes les caméras n'ont pas le même destin. Celle que vous venez de nous raconter en 59 à Moscou est incroyable. Il y a une caméra que vous avez traquée avec votre goût de l'enquête et du détail. C'est la caméra qu'avait avec lui le premier homme qui a marché sur la Lune.
Ah, c'est magnifique.
Et vous avez découvert quelque chose qui avait échappé à beaucoup. C'est qu'elle était équipée d'un thermomètre.
Ah, merci. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en savez comme chose?
Je vous ai regardé.
Merci.
Je vous ai regardé.
Je suis bouleversée.
Alors pourquoi y avait-il un thermomètre sur la Lune?
C'est fantastique. Qu'est-ce qui se passe? On entend dans la bande, dans les images qui ont été retransmises sur Terre avec des sons, tout d'un coup, il y a une question qui est posée par un technicien à Houston, au Texas, et qui dit, est-ce qu'il fait froid? Et alors nous, on s'était interrogé sur cette question. Mais quel est le sens de cette question absurde, a priori, puisque nos astronautes sont équipés de tenues qui les protègent nécessairement de la température. Donc on s'est dit, mais quel est le sens de ça? Est-ce que c'est un message codé? Mais oui. Donc on a fouillé, on a passé des semaines à fouiller.
Oui.
Et ce n'est qu'en étudiant le mode d'emploi de la caméra qui fait 80 pages, le mode d'emploi de la caméra vidéo qu'utilise Neil Armstrong sur la Lune, que nous avons compris, sur le haut de la caméra, il y a un thermomètre. En deçà d'une certaine température, la caméra ne marchera pas. Au-delà, ce sera la même chose, rideau. Pas d'image.
Pas d'image. 700 millions de téléspectateurs.
Le ridicule absolu s'il n'y a plus d'image.
Mais oui.
Et l'échec total de cette mission, car il s'agit de prouver comment, par l'image que les Américains sont allés sur la Lune. Donc la question, elle est dite en tremblant. C'est une panique totale à Houston.
Est-ce qu'il
fait froid ? Et il fallait la dévoiler,
sur la Lune.
Cette panique. Et le mieux pour la dévoiler, c'était de revenir finalement à quelque chose d'extrêmement pratique.
C'est génial. Il faut qu'on comprenne aussi, pour les auditeurs qui n'auraient jamais regardé vos mystères d'archives, qu'ils accordent une grande place aussi à l'image amateur. Vous avez retrouvé des films tournés en Super 8 ou par les ancêtres du Super 8. Je pense par exemple à
Eva Braun.
Eva Braun, par
Bien
exemple.
Sûr.
Eva Braun, la compagne d'Hitler, filmant Hitler. Je voulais qu'on parle aussi de l'édition incroyable des 24 heures du Mans. Parlons d'abord d'Eva Braun parce que ce mystère d'archives-là, il est dingue.
Oui, c'est extraordinaire parce que finalement, elle s'ennuie toute la journée. Et elle aime filmer. Elle a été formée à la photographie. Elle aime filmer. Et le meilleur sujet pour elle, c'est son compagnon.
Ouais.
Et comme son compagnon n'aime pas être filmé, déteste être filmé parce qu'il ne supporte pas son
Hitler.
Physique,
d'accord.
N'est-ce pas ? Eh bien, elle peut faire ce que les autres ne font pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle joue au chat et à la souris avec lui, parce que parfois, il sait qu'elle veut le filmer et il lui échappe. Et en étudiant avec attention les images, on peut remarquer que parfois, elle se cache même pour arriver à le filmer. Et ces images sont un trésor de mémoire, n'est-ce pas ? Puisque c'est on a une proximité, on a une intimité qu'aucun technicien professionnel ne pourrait obtenir. Et ces images, donc, elles servent à mieux comprendre le personnage. Vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec Hitler. La création de l'image d'Hitler, celle que nous connaissons surtout, c'est une image extrêmement dynamique, en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'il l'a choisi comme caméraman officiel, un caméraman de sport. C'est-à-dire quelqu'un qui, pour la première fois, travaillait avec la caméra sur l'épaule et avait l'habitude de tourner ou de suivre le sujet, et non pas d'être sur un trépied et de faire des images plan-plan à distance du politique. Donc, il s'appelle Walter Frenz. Walter Frenz tourne autour de son sujet, et quand Hitler lui fait un signe comme quoi ça suffit, dégage, tu gênes, etc., il s'écarte. Mais dès qu'il le peut, il revient. Et comme il a la caméra à l'épaule, il y a une tension, n'est-ce pas, dans l'image. Parce que l'image est tout le temps légèrement en mouvement. Et il approche très près de son sujet. Walter Frenz a créé l'image que nous avons d'Hitler. Nous ne connaissons Hitler pratiquement que
qu'à travers
ces images.
Ces yeux-là. Ouais, qu'à travers ces yeux-là. Et ces images amateurs dont je parlais, ces images par exemple de liesse populaire, les jours de libération, les images de 1918, il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable. Qui possédait de quoi faire des images ?
Qui possédait de quoi faire ? Quelles sont les compagnies,
mais aussi...
Mais ça se vendait, parce que ça se vendait formidablement bien, les images. Ça avait un succès formidable dans les salles. Les gens, vous savez qu'aux États-Unis, on vendait à peu près 70 millions, écoutez-moi bien, 70 millions de billets par semaine pour aller dans les salles de cinéma. Le succès est foudroyant. Charles Moisson, quand il filme le couronnement du tsar de Russie en 1897, je crois, ou 18, mais le succès est mondial parce que les images, elles vont tourner pendant des mois et des mois dans les salles. Donc cela rapporte énormément d'argent. C'est pour ça que les compagnies couvre les sujets. Une dernière chose, parce que vous parliez de 1918, une dernière chose extraordinaire dans la richesse des images, et je reviens au son. Eh bien, les gens parlent à ceux qui filment. Ils expriment leur enthousiasme, leur bonheur que la guerre s'arrête. Eh bien, on a fait travailler des sourds pour déchiffrer.
Pour lire sur les lèvres.
Pour lire. Et ça marche. On arrive, quand les gens sont bien de face, on arrive à lire sur les lèvres. Ce qui veut dire que ces images ont parfois double richesse. Elles ont aussi une richesse dans le contenu de ce qui a été raconté.
Racontez-nous encore, Serge Vialet, mais que je suis heureuse de vous avoir reçu. Revenez. Charles Moisson, vous êtes le bienvenu et je suis très honorée que vous ayez traversé les siècles pour venir dans mon studio de l'Instant M. Mystère d'archives recommence dimanche à 13h25.
Sur vous nous appelez d'un grand bien vous fasse.
Il y a Julia Foyce qui est parmi nous. Bonjour Julia.
Mais bonjour.
Alors, grand bien vous fasse. Vous oui. dites le sujet et moi, je dis le numéro.
Ok, numéro. Douleur physique, notre difficulté à l'exprimer et sa prise en charge pas toujours adéquate. On
non,
appelle.
Pas toujours. Au 01 45 24 7000.
Vous êtes parfaite.